Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, patience Ngalula Banangé. L'actualité est toujours dominée par la tragédie à la prison centrale de Makala la nuit des dimanches à lundi dernier. Pour sa part, les bureaux conjoints des Nations Unies saluent l'ouverture d'une enquête par les autorités à ce sujet et souhaitent qu'elle soit prompte et transparente. Le centre de transfusion sanguine de Goma est actuellement vidé de ses provisions de sang et la situation est la même dans toutes les structures médicales de la province. En tout cas, la responsable de ces centres appelle à l'aide. L'invité de ce journal est Maître Pierre Bibombé, coordonnateur de l'ONG Enfants à venir. Il déplore des cas de viol à la prison de Makala et demande ainsi au gouvernement de permettre aux ONG d'y accéder en vue d'apporter la prise en charge holistique aux survivantes. Madame, Messieurs, bonsoir. Les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, préoccupés par la situation à la prison centrale de Makala, les BCNUDH saluent l'ouverture d'une enquête par les autorités et souhaitent qu'elle soit prompte et transparente. Ils invitent les autorités à traduire en justice les auteurs des crimes et violations des droits humains survenus dans la nuit des dimanches à lundi au CPRK, quelle que soit leur fonction. Cette réaction du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est contenue dans un communiqué que nous résume Rachel Kiesse.
S'agissant de l'enquête des événements survenus dans la prison de Makala, le BCNUDH se dit prêt, dans le cadre de son mandat, à fournir toute l'assistance nécessaire lorsque celle-ci aura été formellement requise par les autorités judiciaires. Le bureau conjoint prie les autorités de prendre des mesures urgentes en vue d'assurer une prise en charge holistique des victimes des violations de droits humains, y compris des violations sexuelles, en accordant une attention particulière à ceux et à celles qui sont dans une plus grande vulnérabilité. Il se dit disposé à soutenir les autorités dans ces efforts. Les BCNUDH saluent aussi l'intention du gouvernement exprimée dans son programme de construire et réhabiliter les infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Il encourage à ce titre à améliorer la séparation des détenus par sexe et groupe d'âge afin de prévenir les violences sexuelles en milieu carcéral. Alors qu'une épidémie monkeypox est en cours en RDC, les BCNUDH invitent les autorités à s'assurer que des mesures soient prises pour réduire les risques des propagations de la maladie au sein du centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa et dans des lieux des détentions à travers le pays, indique le communiqué. Les BCNUDH soulignent également les mesures intérimaires prises par le ministre d'État de la Justice et Garde des Sceaux pour désengorger les prisons et réitèrent sa disponibilité à identifier et appuyer des mécanismes à même de trouver une solution durable pour des conditions de détention dignes en RDC.
Selon les BCNUDH, avant les événements de la nuit du dimanche à lundi, plus de 15 000 personnes étaient détenues à la prison de Makala qui a été construite pour accueillir 1 500 détenus. Dans le même registre, la surpopulation carcérale est citée parmi les causes qui justifient les nombres élevés des morts dans la prison centrale de Makala. C'est en tout cas ce que pense Maître William Mwenga de Human Rescue DRC qui se définit comme une organisation nationale de protection et promotion des droits de l'homme. Par ailleurs, il estime que ce qui s'est passé constitue un crime d'État. Il appelle à une enquête internationale qui ferait la lumière sur ces drames pour que les auteurs soient sanctionnés. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Parmi ces jeunes, il y a ceux qui ont déjà purgé leur peine. Mais faute d'une administration pénitentiaire lente, ils sont restés détenus injustement, sans oublier les cas des innocents qui n'ont jamais bénéficié d'un procès. Il y a aussi les cas bénins. Peut-être il a volé juste une poule, il s'est chamaillé avec son ami, bon, il a des problèmes avec sa femme. Et d'un coup, il se retrouve à Makala. Un mois, deux mois, six mois, une année, deux ans. Et c'est la raison pour laquelle nous parlions toujours d'une surpopulation dans cette prison centrale de Makala. D'emblée, nous pensons déjà qu'il s'agissait de crimes d'État. Parce qu'on s'imagine, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, quelqu'un qui est en fuite ou bien il est déjà évadé, il doit se retrouver à l'extérieur de la prison, mais pas à l'intérieur. Mais quand quelqu'un est décédé à l'intérieur de la prison, il y a anguille sur roche. C'est là où nous voulions qu'il y ait vraiment des enquêtes internationales pour élucider toute cette situation et que les responsables puissent être punis.
Affaire prison centrale de Makala toujours, plusieurs personnalités et acteurs politiques du pays condamnent ce qu'ils qualifient de massacre ou carnage des détenus. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Matata Ponyo et Claudel André Lubaya, pour ne citer que ceux-là, dénoncent selon eux l'indifférence du gouvernement face aux conditions carcérales infrahumaines et exigent que justice soit faite. Moïse Katumbi, par exemple, appelle à la mise en place d'une commission d'enquête sérieuse associant la MONUSCO et des représentants des ONG des droits de l'homme pour faire éclater toute la lumière sur ces drames. Les réactions des uns et des autres avec Grace Amzati.
Moïse Katumbi déplore, je le cite, « la surpopulation, la faim, la maladie, le manque total d'hygiène ont été dénoncés, images à l'appui. Mais les pouvoirs publics ont préféré ignorer ces avertissements. Le pire est finalement arrivé. Plusieurs dizaines de prisonniers ont été abattus comme des animaux dans une barbarie insupportable. » Fin de citation. De son côté, Martin Fayoulou écrit « Ces exécutions sommaires sont un crime inacceptable qui ne peut rester impuni ». Pour sa part, le docteur Denis Mukwege dénonce la banalisation de la vie ainsi que le mépris de la dignité humaine et le piétinement des droits fondamentaux des citoyens en toute impunité constatée au pays. Le prix Nobel de la paix renchérit, c'est à chacun de nous et à nous tous de dire non et de faire comprendre aux dirigeants de notre pays que trop c'est trop, la vie humaine est sacrée. Par ailleurs, tout en exigeant des enquêtes indépendantes, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon affirme que ces tueries tragiques auraient pu être évitées par l'exercice d'une politique d'anticipation à travers une gouvernance de qualité. Dans la foulée, l'acteur politique Claudel André Lubaya lance, je le cite, « Il faut des mesures et non des mesurettes ». Fin des citations. Face à la gravité de la situation, le gouvernement se doit sans populisme collégien d'éviter les faux fuyants et de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé, en établir les responsabilités et en tirer toutes les conséquences, déclare-t-il.
Et puis, viol massif des femmes à la prison centrale de Makala. À la suite de la tentative d'évasion, la coordinatrice du service de la jeunesse et de la lutte contre les violences sexuelles et la traite des personnes en appelle à un jugement et à séparer les femmes des hommes. La conseillère du président de la République en matière de la lutte contre les violences sexuelles et la traite des personnes dit envisager une visite auprès des femmes violées dans la prison afin de s'assurer de leur prise en charge. Chantal Yelumulopo est au micro de Jeff.
C'est pas la première fois qu'il y a des viols comme ça, massifs. Il y a eu ça à la prison de Lubumbashi. Les femmes ont été violées. Absolument, il est temps qu'on puisse mettre en place cette prison de femmes. Madame Rose Mutombo est en train de préparer parce qu'il faut absolument séparer les femmes et les hommes dans les prisons, comme partout dans le monde. Et il faut aussi séparer les enfants dans les prisons. Il faut qu'on trouve des solutions. Il faut aussi qu'il y ait une prise en charge de santé, une prise en charge psychologique. Et il faut un jugement. On se rend compte que ces femmes là ont été négligées, elles sont déjà négligées depuis le départ, le fait de les mélanger dans ces genres de prisons avec les hommes et aussi de s'en occuper.
Et madame, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites déjà?
À notre niveau, nous allons faire le suivi pour voir si toutes ces prises en charge là ont été prises en place et aussi aller faire une visite à la prison de ces femmes là pour voir qui ont été victimes, qu'est-ce qu'il faut faire.
Au Nord Kivu, le Centre provincial de transfusion sanguine, CPTS, est en manque criant de sang. La responsable de cette structure qui tire la sonnette d'alarme parle d'une situation alarmante et catastrophique jamais vécue depuis 17 ans. Elle appelle à une assistance immédiate du gouvernement et des différents partenaires pour sauver des milliers de vies humaines en danger. Les points avec Gabriel Wamenya.
La banque du sang du Centre provincial des transfusions sanguines, tout groupe confondu, est actuellement vidée de ses réserves de sang. Cette situation est similaire dans toutes les structures médicales de la province, précise le docteur Liliane Bouiza.
Nous sommes en pénurie du sang, presque pour tout le groupe sanguin. On n'arrive plus à servir les demandes des hôpitaux. Et ce n'est pas seulement à Goma, c'est aussi dans toute la province.
Pour l'instant, la situation est catastrophique et des cas de décès dus à cette carence en sang sont rapportés dans plusieurs structures médicales à travers la province, affirme Dr Liliane Bouiza.
Nous sommes à une situation alarmante, une situation catastrophique. Je peux vous dire que nous avons commencé à enregistrer des décès et ça, c'est vraiment du jamais vu.
Selon le Dr Liliane, la réponse des autorités provinciales à cette épineuse question tarde encore à venir. Tous nos efforts pour avoir la réaction des autorités sanitaires en province n'ont pas abouti. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Toute autre nouvelle, la plateforme Comprendre et Agir dans les secteurs miniers, industriels et artisanal, Kasimia, s'est dit préoccupée par la non-prise en compte de la province du Lualaba dans la réalisation des ouvrages dans le cadre du projet sino-congolais entre les gouvernements et l'entreprise minière Sicomine. Pour cette ONG, pour les deux décaissements, le Lualaba n'est pas pris en compte, bien que ses populations soient les premières à être directement impactées par cette exploitation minière. Kasimia l'a fait savoir dans un communiqué de presse publié ce mardi à Kolwezi. On écoute les coordonnateurs nationaux de cette plateforme, Shadrach Moukad, joint par Jean Gandou.
Il se dégage que la province du Lualaba, bien que la productrice de ses richesses, elle est laissée pour compte. La première tranche de 324 millions n'avait pas tenu compte de la province du Lualaba. Et la dernière tranche de 300 millions pour l'année 2024, et le Lualaba est toujours laissé pour compte. Voilà pourquoi nous dénonçons ce caractère discriminatoire et injuste et nous demandons que cet aspect des choses soit corrigé. Le Lualaba ne peut pas être utilisé seulement comme province laitière ou vache laitière, mais elle doit aussi être la privilégiée dans la réalisation de ces projets dans le cadre du contrat sino-congolais. Vous savez, la province du Lualaba éprouve aussi des difficultés. La province du Lualaba là-bas à des routes, la nationale numéro 39 de Kolwezi à Dilolo et de Kasaji à Kapanga, elle n'est pas construite. Elle nécessite vraiment un financement approprié pour sa réalisation. Il y a aussi des routes de dessertes agricoles qu'il faudra que la province s'en occupe.
Rendons-nous sans plus tarder dans la province de la Tchopo où les Frivao font des réparations et des indemnisations des victimes des activités illicites. De l'Ouganda en RDC reprend l'opération des indemnisations des victimes des guerres de Kisangani. D'ici 4 matins, son coordonnateur ad intérim l'a annoncé hier au cours d'un point de presse organisé au siège de cet établissement public. Selon Chansar Bolukola, chaque victime en règlement et certifié recevra une somme de $2,000 américains au lieu des $300 à $400 que remettaient les comités sortants. Il précise que ceux qui en avaient déjà reçu auront droit à un complément pour atteindre les $2,000 tel que décidé par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, lors de son dernier passage à Kisangani. Au Kasaï oriental, un malaise s'observe depuis vendredi dernier à la société énergie du Kasaï NRK qui commercialise l'énergie électrique de la centrale hydroélectrique de Tchala à plus ou moins 30 km de Mbujimayi. Les agents qui travaillent à la direction commerciale de NRK à Mbujimayi déplorent les non-paiements de leur salaire des 2 mois par l'entreprise Tchekseko qui réhabilite actuellement la centrale hydroélectrique de Tchala. Un des responsables de cette entreprise promet de trouver la solution à ces problèmes. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis vendredi dernier que les agents de NRK basés à Mbujimayi manifestent devant leur bureau pour réclamer la paye de 2 mois de salaire. D'après ces agents, l'entreprise Tchekseko, qui a signé au début de l'année le protocole d'accord avec la société énergie du Kasaï, NRK, pour la réhabilitation et l'augmentation de la capacité de l'énergie électrique au niveau de la centrale hydroélectrique de Tchala, paye que les agents qui sont à la centrale. Ceux qui travaillent à la direction commerciale de NRK en Mbujimayi, ils sont abandonnés à leur triste sort. Sur les 3 mois payés aux agents de la centrale hydroélectrique de Tchala, ceux de la direction commerciale ont touché les salaires d'un mois seulement. Pourtant, dans le protocole d'accord, tous les agents sont désormais à charge de l'entreprise Tchekseko. Le président de la délégation syndicale de la société minière de Bakwangamiba déplore cette situation car depuis la signature du protocole d'accord, l'entreprise Tchek fait payer les factures d'énergie aux abonnés de NRK. Contacté par les journalistes ce mardi, le représentant de l'entreprise tchèque a réuni les agents pour leur dire que leurs doléances seront transmises à qui de droit pour une solution idoine. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Rentrée scolaire 2024-2025, on en parle encore. Pas d'enseignement dans certains établissements publics à Kinshasa. À l'épée Molende, dans la commune de Mongafula, les enseignants grèvent tout en étant présents sur les lieux de travail, alors qu'à l'épée Tobongisa, à Binzaozone, dans la commune d'Engaliema, les enseignants ont carrément renvoyé les élèves à la maison. Depuis le lundi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire, enseignants et élèves se rendent à l'école, mais les cours ne se donnent pas. Face à cette situation, les parents et les élèves demandent au gouvernement de répondre aux besoins des enseignants pour garantir la reprise effective des enseignements. John Tiboabois a fait la ronde de certaines écoles de Kinshasa. Suivez son reportage.
À Kinshasa, la rentrée scolaire marche à des vitesses. Elle est effective dans certaines écoles, mais pas dans d'autres. À l'école primaire Tobongisa, par exemple, les enseignements ne se donnent pas et les enseignants ont déserté les salles des classes et même l'école, abandonnant les élèves à leur triste sort. Suivez les témoignages de quelques élèves rencontrés sur place.
Les enseignants, ils sont en train de faire la grève. Ils ont besoin que l'État
leur paye, je veux dire.
Il n'y a pas cours depuis le lundi jusqu'au samedi. On a dit, on ne sait pas, peut-être on peut venir le lundi prochain.
Venu pour constater la situation dans l'établissement où étudie son enfant, ses parents lancent un message au gouvernement.
Les enseignants ont des revendications, que le gouvernement essaie de les satisfaire. Et ils peuvent continuer à enseigner.
À l'école primaire Molende à Mongafula, par contre, les enseignants observent leur mouvement de grève sur le lieu du travail. Cet enseignant témoigne.
Nous demandons à ce que tout ce que nous voudrons soit réalisé. Pourquoi comme ça? Nous sommes à l'impossibilité de faire scolariser nos enfants au niveau des universités. Manque de moyens, nos enfants, il est diplômé d'État, il reste chaque fois à la maison. Le président ne peut pas nous promettre sans être réalisé. Nous voudrons que cette fois-ci, vraiment qu'il prenne les choses en main.
Notez que dans plusieurs écoles publiques de la capitale, les élèves affirment qu'ils se présentent à l'école, mais sans étudier du fait que les enseignants refusent de donner cours.
Actualité internationale.
Les fortes pluies causent l'effondrement de la plus ancienne mosquée des Indères au Niger. Plusieurs régions du Niger ont été frappées mardi 3 septembre par des très fortes pluies causant des destructions significatives. À Agadez, dans le nord du pays, les autorités locales ont rapporté un bilan provisoire de 5 blessés graves, une quarantaine d'habitations effondrées et plusieurs écoles inondées.
L'invité.
Au lendemain de la tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala, l'ONG Enfants Avenir déplore la situation alarmante des femmes et filles détenues. Invité de Radio Kapi, le coordonnateur de cette structure, Maître Pierre Bibombé, affirme avoir eu écho de plus de 300 femmes et filles victimes des viols à la suite de cet incident. Il demande ainsi au gouvernement de permettre aux ONG et humanitaires d'accéder dans cette maison en vue d'apporter la prise en charge holistique à ces survivantes. Maître Pierre Bibombé s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Maître Pierre Bibombé.
Bonjour Monsieur Blaise.
Quelle analyse portez-vous sur la tentative d'évasion massive perpétrée dans la nuit du dimanche à lundi dernier à la prison centrale de Makala?
Oui, à notre niveau, c'est une analyse triste par rapport à cette situation qui prévaut à la prison centrale de Makala, où on signale les nombres de morts. On signale les cas de violences faites sur les femmes. Donc, en l'occurrence, c'est les cas de viols massifs. C'est une situation tellement alarmante par le simple fait que les prisonniers aujourd'hui qui ont perdu leur vie par rapport à cette tentative d'évasion, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, ce que nous pouvons dire à ce stade par rapport aux informations recoupées, c'est que les autorités d'abord rétablissent l'ordre. Parce que l'accès à la prison pour le moment, même par rapport à la population environnante, est tellement limité.
Mais le gouvernement affirme avoir déjà rétabli l'ordre.
Par rapport à ce que nous avons reçu comme information de la part de la population environnante, l'ordre n'est pas toujours pas rétabli jusqu'à ce niveau. Parce qu'il y a même des informations selon lesquelles plus de 300 femmes seraient violées de manière massive par les co-détenus dans cette situation de confusion. Alors nous nous demandons si ces survivantes-là sont encore détenues à la prison, quel est leur sort par rapport à leur prise en charge.
Maître, vous, de qui vous avez eu toutes ces informations en parlant de plus de 300 femmes victimes de viols?
Nous sommes défenseurs des droits de l'homme. Lorsqu'il y a une telle situation, d'abord il y a des détenus eux-mêmes qui sont en prison, qui communiquent ce qui se passe à l'intérieur, la population environnante.
on relève les cas des viols massifs sur les femmes. Nous, nous sommes sensibles par rapport à la situation des droits des femmes, des droits des filles. Lorsque nous apprenons qu'il y a des cas de viols commis sur les femmes dans une situation pareille, nous nous demandons, est-ce que la prise en charge peut-elle être acheminée à la prison? Est-ce que les autorités ne peuvent pas nous créer un couloir humanitaire urgent pour que les victimes de ces viols soient prises en charge de façon holistique?
Alors, quel genre de prise en charge comptez-vous apporter aux victimes exactement?
D'abord, la prise en charge médicale. Quand on parle de viol massif, c'est que nous estimons qu'il y a une femme qui a été violée par 2, 3 hommes ou 5 hommes dans cette situation de confusion catastrophique. Il faut que ces victimes soient prises en charge sur le plan médical, sur le plan psychologique, sur le plan juridique, parce qu'on doit identifier les auteurs de ces viols-là sur les femmes.
Avez-vous des matériels adéquats pour arriver à satisfaire surtout les victimes des viols, comme vous le dites?
Si l'accès aux acteurs humanitaires est accordé, nous sommes prêts pour apporter une assistance psychologique, juridique et pourquoi pas même médicale, parce que si on réfère ces survivantes dans les structures sanitaires, elles seront prises en charge pour que toutes ces victimes-là soient prises en charge et que leur vie soit tellement sécurisée.
Mais vous semblez être injuste parce qu'il y a aussi des cas où des femmes qui violent des hommes, mais vous ne plaidez que pour les femmes et les jeunes filles. Pourquoi pas pour les hommes?
Dans la situation qui prévaut dans la prison centrale de Makala jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu d'informations pour les cas des hommes qui seraient victimes aussi des cas de viol. Donc, de manière générale, il est tout à fait vrai et compréhensible que les hommes aussi peuvent faire l'objet de violences faites par les femmes. Mais de manière générale, c'est à faible pourcentage que les hommes soient victimes de ce genre de violences.
Que faire, Maître Pierre Bibombé, pour éviter de telles situations dans les jours à venir?
Il est vrai que le ministre de la Justice avait déjà commencé une telle bonne initiative de désengorger la prison centrale de Makala. C'est un plaidoyer. Aujourd'hui, les autorités judiciaires, en l'occurrence le magistrat, surtout des parquets, mettent les gens sous mandat d'arrêt provisoire. Mais pour des faits bénins, on doit remplir la prison avec des gens parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer des cautions pour leur liberté provisoire. Nous saluons d'abord les mesures provisoirement prises par le Conseil de sécurité et par même le ministre de la Justice pour interdire tout acheminement en prison des détenus en attendant l'ordre qui sera éventuellement donné.
Maître Pierre Bibombé, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie, cher Blaise.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information. Richard Junior Kamungambo Achimakinda et Pele Kipela Mondo l'ont préparé pour vous, tandis que Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa la mise en onde. À la présentation, Patience Ngalula Mbombo. À vous, aimable auditeur, merci d'avoir été des nôtres.